Chapitre 56. Les semaines passèrent dans un tourbillon. Richard n'avait pas une seconde à lui. Naguère, Callan et Zed lui avaient dit qu'il ne restait plus de sorciers dans les contrées du milieu. Pas étonnant puisqu'ils étaient tous au palais des prophètes. Plus d'une centaine d'adolescents et de jeunes hommes occupaient les lieux. Et d'après ce que le sourcier avait pu apprendre, un bon nombre des plus âgés venaient des contrées, voire de Dara. Pour les jeunes garçons, Richard, le tueur de Muiswis, était devenu une célébrité. Deux gamins, Kip et Hirsch, lui collaient sans cesse au basque, avides de l'entendre raconter ses aventures. À certains moments, ils affichaient la maturité et presque la sagesse d'hommes mûrs. À d'autres, comme tous les enfants, ils semblaient s'intéresser exclusivement à collectionner les sottises. Les sœurs étaient les cibles favorites de leur polissonnerie. Jamais à court d'idées sur ce sujet, ils imaginaient une kyrielle de mauvais tours à base d'eau, de boue, de petits reptiles. Leurs victimes explosaient rarement de colère et se montraient promptes à les pardonner. À la connaissance de Richard, la punition la plus sévère se limitait à un sermon gratiné. Les premiers temps, ils crurent bon d'ajouter Richard sur la liste de leurs souffre-douleurs. Dès qu'ils s'aperçurent que le tueur de Muiswis goûtait peu la plaisanterie, et qu'il était autrement plus autoritaire que les sœurs, ils s'empressèrent de lui ficher la paix. Kip et Hirsch, impressionnés par sa fermeté, lui vouèrent désormais un culte. Entouré de femmes, il paraissait avide de fréquenter un homme mûr. Richard ne se montra pas avare de récits d'aventure. Quand leur présence ne risquait pas de le gêner, il les emmenait même avec lui en promenade, histoire de les initier aux secrets de la nature. Désireux de rester dans les bonnes grâces de leur mentor, les deux garçons disparaissaient dès qu'ils désiraient être seuls. La présence de la novice l'empêchant de se consacrer à ses autres occupations, il s'arrangeait pour que Kip et Hirsch ne soient jamais bien loin à ces moments-là. Frustré de ne pas être seul avec son élève, Pacha révisa un peu sa position quand elle bénéficia par extension de l'immunité du sourcier. Ne plus risquer d'être mouillée de la tête aux pieds la ravissait, sans parler des serpents qu'elle ne trouverait plus lovés dans ses châles. De temps en temps, Richard chargeait Kip et Hirsch de missions faciles. Il avait des plans pour eux. Les autres apprentis sorciers tenaient à faire découvrir la ville à leurs nouveaux compagnons. Perry et Isaac, qui résidaient au pavillon Gillome, comme lui, l'emmenèrent en virée et lui firent découvrir la taverne où les gardes se retrouvaient rituellement. Le lendemain, Richard offrit à Kevin Andelmer la bière qu'il lui avait promise. Les pensionnaires âgés du palais passaient le plus souvent leur nuit en ville, dans des tavernes cossues. Couverts d'or et d'argent comme lui, ils s'entraînaient à le dépenser. S'habillant comme des princes, ils n'hésitaient pas à s'offrir les suites les plus somptueuses lors de leurs escapades nocturnes. Une multitude de femmes, toutes belles à couper le souffle, ne rechignaient jamais à profiter de leur largesse. Le soir où il alla en ville avec Perry et Isaac, un régiment de beauté en délire les encercla. Le sourcier n'avait jamais vu des filles aussi hardies. Chaque nuit, ses nouveaux amis en sélectionnaient deux, parfois davantage, leur offraient quelques babioles et les ramenaient à leur auberge. Si le coût des petits cadeaux l'ennuyait, expliquèrent-ils à Richard, il existait des bordels tout à fait convenables. Mais il n'y trouverait pas, selon ses experts, des filles aussi belles et aussi jeunes que leurs compagnes d'un soir. Cela dit, reconnurent-ils, il n'hésitait pas à fréquenter ces établissements quand il ne se sentait pas d'humeur à compter fleurettes à de fausses mijaurées. Dès qu'elles repérèrent son Radahan, les damoiselles se jetèrent sur Richard, multipliant les œillades et les effets de hanche. À l'aune de cette expérience, les propos de Verna sur la nouvelle paire de jolies jambes prirent tout leur sel pour le sourcier. Perry et Isaac assurèrent qu'il était fou de refuser systématiquement tant d'alléchantes propositions. À certains moments, Richard se demanda s'il n'avait pas raison. Il voulut savoir si ses amis n'avaient pas peur de se faire arranger le portrait par les pères de leur conquête. Hilar, ils lui répondirent que de dignes paternels leur présentaient souvent la chair de leur chair, et les maternités accidentelles, sans qui ensuite le jeune homme. Dans les cas de grossesse spontanée, lui expliquèrent ses compagnons, le palais s'occupait de la mère, du rejeton et souvent de tout le reste de la famille. Quand il demanda à Pacha pourquoi il en était ainsi, Elle croisa les bras, lui tourna le dos et parla des besoins incontrôlables des hommes qui risquaient, en restant inassouvis, de perturber leur apprentissage. Pragmatiques, les sœurs encourageaient leurs sujets à ne pas accumuler d'inutiles frustrations. C'était pour ça que Pacha n'avait pas le droit d'accompagner Richard lors de ses virées nocturnes en ville. Au cas où cela eût contrarié la satisfaction de ses besoins. Après ce discours, la novice s'était tournée vers le jeune homme, l'implorant de s'en remettre à elle pour ce genre de choses, ou au moins, s'il voulait continuer d'aller en ville, qu'il l'autorise à devenir une de ses maîtresses. Certaine de le satisfaire mieux que toute autre femme, elle se proposait de le lui démontrer. Richard fut ébahi par ce discours, sans parler du comportement qui l'accompagnait. Toujours prudent quand on abordait ce sujet, il assura Pacha qu'il allait en ville pour assouvir sa curiosité et rien d'autre. Ayant grandi dans la forêt, il ne connaissait pas les cités et leurs mystères. Mais chez lui, ajouta-t-il, on ne traitait pas les femmes de cette manière. Cela dit, promit-il, si ses besoins devenaient trop pressants, il se tournerait vers la novice. Ravi d'entendre cela, Pacha ne se rembrunit pas quand il lui rappela qu'il n'était pas encore prêt. À l'évidence, elle ne se doutait pas qu'il se sentait tellement seul par moments que la tentation devenait presque irrésistible. La jeune femme avait tout pour plaire à un homme. Parfois, la tenir à une distance de sécurité était loin d'être un jeu d'enfant. Elle lui avait fait visiter toutes les parties autorisées du palais, une bonne moitié de la ville, et même les docks où il avait pu admirer de grands bateaux appelés des navires, car ils étaient conçus pour voguer sur l'océan. Ils allèrent aussi sur la plage et passèrent des heures à observer les vagues ou à patauger dans les poches d'eau laissées par la marée. Apprendre que la mer montait et descendait régulièrement, et d'elle-même, stupéfia le sourcier. Il pensa d'abord que c'était un effet de la magie du palais, mais la novice le détrompa. Il en allait ainsi partout. Fasciné par l'océan, Richard aurait consacré ses journées à l'admirer. Et Pacha, ravi d'être près de lui, n'aurait rien fait pour l'en empêcher. Hélas, il avait des choses bien plus importantes sur son programme. La novice n'avait pas le droit de l'accompagner en ville le soir, au cas où il aurait décidé de se payer un peu de bon temps. Comme il ne couchait avec aucune fille, il trouva assez facilement les accents de la sincérité quand il lui jura, pour la centième fois, que la luxure n'était pas la raison de ses escapades. Pour autant, il ne se risqua pas à lui dire la vérité sur ses occupations nocturnes. Le palais le couvrant d'argent, Richard décida d'utiliser cette manne contre ses mécènes. Devenu un client régulier des tavernes favorites des gardes, il s'assura que ses hommes ne paient plus une seule chope lorsqu'il était présent. Il apprit les noms de tous les soldats, notant dans un cahier tout ce qu'il savait sur eux. Bien entendu, il s'intéressa tout particulièrement à ceux qui défendaient les quartiers de la Dame Abbesse et les autres zones interdites du palais. Ne ratant pas une occasion de leur parler quand ils déambulaient dans les couloirs, il les bombarda de questions sur leurs petites amies, leurs épouses, leurs parents, leurs enfants, leurs préférences gastronomiques et leurs divers problèmes. Pour Kevin, il acheta une boîte de chocolat hors de prix, les préférés de sa petite amie, inabordable pour un simple soldat. Le présent ayant valu un grand succès au brave garçon, il rayonnait dès qu'il apercevait son bienfaiteur, même quand il avait les yeux cernés suite à ses exploits avec la dame. Richard prêta de l'argent à tous les gardes qui lui en demandèrent et qui n'auraient jamais, il le savait, les moyens de le rembourser. Lorsque certains vinrent s'en excuser, il leur assura que ça n'avait aucune importance et leur conseilla de ne pas se gâcher la vie pour de pareilles vétilles. Deux vétérans endurcis, affectés à la surveillance d'une partie interdite du palais dans l'aile ouest, le laissèrent payer leur consommation sans pour autant fraterniser avec lui. Décidé à relever le défi, Richard proposa de leur louer les services de 4 prostituées, 2 par tête de pipe. Quand ils sentirent des motifs de sa générosité, il leur expliqua que le palais lui allouait des fonds illimités. Pourquoi en aurait-il profité égoïstement? Puisque les deux hommes passaient leur journée debout à assurer la sécurité des sœurs, il semblait normal qu'elles contribuent à allonger une jolie fille sous eux quand ils pouvaient enfin se mettre à l'horizontale. La méfiance des deux types fondit comme neige au soleil. Après leur première nuit d'extase, Ils gratifiaient Richard de force clins d'œil chaque fois qu'il passait devant eux. Ravi du résultat, il les alimenta en jolies poupées et des sourires vinrent promptement s'ajouter aux clins d'œil. Comme le sourcier s'en doutait, les deux types se vantèrent partout de leur bonne fortune. Apprenant cela, certains de leurs camarades vinrent se plaindre auprès du jeune homme. Pourquoi un tel favoritisme? Convaincu par la logique de leur raisonnement, Richard passa à une plus grande échelle. Histoire que l'opération ne lui mange pas tout son temps, il imagina une audacieuse solution. Ayant trouvé une tenancière de bordel ouverte aux arrangements commerciaux inventifs, il réquisitionna son établissement, désormais réservé à ses amis. En plus d'être efficace, ce système, basé sur un ingénieux forfait, ménageait un peu les finances du palais. Désireux que les hommes sachent à qui ils devaient leur bonheur, il exigea qu'ils utilisent, pour montrer patte blanche, la phrase codée suivante « Je suis un ami de Richard Cypher ». C'était la seule obligation en vigueur. Et lorsque la tenancière se plaignit qu'il y avait plus de travail que prévu, le sourcier lui alloua de bon cœur une rallonge conséquente. Quand sa conscience le torturait, après tout, on n'eût guère pu qualifier de morale son petit commerce, le sourcier se consolait en pensant qu'il n'avait pas inventé le comportement de ces hommes, et si ça pouvait lui éviter de commettre un massacre, le moment venu, l'éthique serait tout de même sauve. Un jour, alors qu'il se promenait avec Pacha, elle lui demanda pourquoi tous les gardes lui faisaient des clins d'œil. L'explication qu'il improvisa, parce qu'il était au bras de la plus jolie fille du palais, la fit sourire aux anges pendant une bonne heure. Richard habitua aussi les soldats à le voir vêtu de la cape noire du Mouizouis. Histoire de ne pas irriter la novice, il continua néanmoins à porter le manteau rouge qu'elle adorait. Pour changer un peu, il mettait parfois les autres. Le bleu, le bleu marine, le marron ou le vert lui allaient un peu mieux, mais il se sentait toujours aussi ridicule dans ses atours de courtisan. Même si elle préférait les promenades en ville, la novice l'accompagnait parfois lors de ses excursions dans la nature, histoire sans doute de partager ses intérêts. Au fil de leur conversation, Richard apprit que les gardes du palais étaient des soldats de l'ordre impérial en mission spéciale. L'ancien monde était tout entier sous la coupe de l'Empire, à part le palais des prophètes, heureux bénéficiaire d'une sorte d'entente cordiale. Aucun impérial ne se mêlait jamais des affaires des sœurs et des porteurs de Radahan. Les soldats se chargeaient surtout de gérer les flots de visiteurs qui envahissaient chaque jour l'île Collet. Venus demander la charité, un arbitrage dans une dispute ou une initiation à la sagesse du Créateur, ces étranges pèlerins occupaient une bonne part du temps des sœurs de la lumière. Tanimura, aussi grande fut-elle, n'était qu'un avant-poste de l'Empire. À l'évidence, l'empereur consentait à fournir des hommes sans demander en contrepartie que le palais soit sous sa jurisprudence. Bien entendu, cela faisait autant d'espions disposés à lui raconter ce qui se passait dans cette zone libre. Et les sœurs devaient sans doute lui rendre quelques menus services en échange de sa générosité. Le sourcier apprit aussi qu'un invité de marque était consigné dans une des parties interdites du complexe. Malgré ses efforts, il ne put en découvrir plus. Afin de tester la loyauté des gardes, il commença à leur présenter d'inoffensives requêtes. À Kevin, il raconta qu'il voulait offrir à Pacha une rose jaune, une variété qu'on trouvait exclusivement dans les quartiers de la Dame Abbesse. Quand le soldat la lui procura, il mit un point d'honneur à conduire par hasard la novice devant le brave garçon qui se rengorgea de fierté. Pour avoir ses entrées dans d'autres zones interdites, le sourcier réutilisa son astuce florale ou prétendit avoir envie de contempler l'océan sous un angle inédit. Pour rassurer les gardes et endormir leur méfiance, il s'efforçait pendant ses intrusions de rester toujours bien en vue. Les soldats s'habituèrent vite à le voir partout. Après tout, n'était-il pas leur ami, et une relation précieuse et digne de confiance? Son petit jeu avec les fleurs lui donna l'occasion d'affiner sa stratégie. Les offrant aux sœurs avec qui il travaillait, il leur expliqua, quand elles s'en étonnèrent, que des femmes aussi spéciales méritaient de recevoir des présents hors du commun. En sus de les faire rougir, Ce compliment joliment troussé les incita à fermer les yeux sur les transgressions inoffensives de leur élève. Sur les quelques 200 sœurs de la lumière présentes au palais, une demi-douzaine seulement se chargeait de la formation du nouveau. Les doyennes, Tovi et Cécilia, étaient d'authentiques grand-mères poules. À chaque séance, Tovi lui apportait des petits gâteaux ou d'autres friandises. Cécilia, elle, ne manquait jamais, quand ils se séparaient, de lui planter un baiser sonore sur les joues. Toutes les deux rougissaient comme des pucelles chaque fois qu'il leur offrait des fleurs. De quoi avoir quelques difficultés à les tenir pour des ennemis potentiels. La première fois que sœur Mérissa frappa à sa porte, Richard en resta bouche bée. Fasciné par ses splendides cheveux noirs et ses courbes que mettait en valeur une magnifique robe rouge, il bégaya comme un parfait imbécile pendant 10 minutes. Sœur Nietzsche, une adepte des tenues noires, lui fit tout autant d'effet. Elle pose ses yeux bleus sur lui et voilà qu'il en oubliait de respirer. Plus âgée que Pacha, Mérissa et Nietzsche irradiaient la confiance et la grâce. Bien que l'une fût blonde et l'autre brune, on les aurait cru taillées dans le même tissu rare et délicat. Auréolées du pouvoir de leur Han, parfois le sourcier aurait juré que l'air crépitait autour d'elles, ces deux femmes ne semblaient pas marcher sur le sol. Elles y glissaient comme des cygnes sur une onde paisible. Elles souriaient toujours du coin des lèvres et uniquement quand elles regardaient le jeune homme dans les yeux. À ce moment-là, le cœur du pauvre bougre battait si fort qu'il craignait de le voir jaillir de sa poitrine. Un jour, Richard osa offrir une de ses fleurs rares à Nietzsche. Trop ému pour lui sortir son explication stratégique, il blêmit quand il la vit prendre la rose du bout des doigts comme si elle redoutait de se salir et lâcher un « merci Richard » d'une indifférence glaciale. Se souvenant que la plupart des garçons piégeaient les sœurs en leur apportant des grenouilles, il décida de ne plus jamais se livrer à son petit jeu avec Mérissa ou Nietzsche. Tout autre présent que des bijoux hors de prix pour elle passerait pour une insulte. Bien entendu, lors des séances, elle ne proposait jamais de s'asseoir sur le sol. Avec elle, cette idée semblait parfaitement ridicule. À l'inverse de Tovi, Cécilia et Pacha, elle prenait place sur des chaises et tenait les mains de Richard au-dessus d'une petite table, une expérience curieusement érotique qui le faisait transpirer dans sa tunique. Toutes deux parlaient avec une économie de mots qui ajoutait à leur noblesse naturelle. Bien qu'elles ne l'eussent jamais clairement dit, Richard aurait parié qu'elles étaient prêtes à l'accueillir dans leur lit. Rien n'était prononcé, mais ça flottait dans l'air, comme un parfum qu'il ne pouvait s'empêcher de sentir. Cette évanescence lui permit fort heureusement de jouer les crétins. Face à des propositions plus directes, il aurait dû se mordre la langue pour ne pas accepter avec enthousiasme. Cela lui rappela les propos de Pacha au sujet des besoins incontrôlables des hommes. De sa vie, il n'avait jamais rencontré de femme apte à lui fouetter ainsi les sangs et à le faire passer pour un idiot. Bref, Mérissa et Nietzsche étaient des pousses au crime, l'incarnation triomphante du désir et de la luxure. Quand Pacha apprit qu'elle comptait parmi ses formatrices, elle haussa les épaules et marmonna qu'étant très douée, elle l'aiderait sûrement à toucher son Han, mais la façon dont elle rosit éclaira le sourcier sur ses véritables sentiments. Perry et Isaac, eux, frôlèrent l'apoplexie quand ils le surent. Pour une nuit avec une des deux, affirmèrent-ils, ils voulaient bien renoncer à jamais aux femmes de la ville. Au cas où Richard aurait ce grand honneur, ils le conjurèrent de saisir l'occasion au vol et de tout leur raconter. Histoire de doucher leur enthousiasme, il leur affirma que des dames de cette classe se fichaient comme d'une guigne d'un vulgaire guide forestier. Et tant pis si ça n'était pas la vérité. La cinquième sœur, Armina, plus mûre que ses deux incendiaires collègues, n'était pas déplaisante non plus. Professionnelle jusqu'au bout des ongles, elle lui conseilla, en l'absence de résultats probants, de ne pas se décourager et de travailler de plus en plus durement. Assez chaleureuse, elle rougit comme une pivoine quand son élève lui fit le coup des fleurs. À vrai dire, Richard aimait bien cette femme à la personnalité tout d'une pièce. La dernière formatrice, Liliana, était sa favorite. Dotée d'un sourire désarmant, elle ne manquait pas de charme malgré sa maigreur, sans doute à cause de son caractère ouvert et amical. Traitant Richard comme un confident, elle l'entraînait souvent dans de longues conversations nocturnes qu'il n'aurait pas dû se permettre, mais qui le réconfortaient. Bien qu'il n'eût aucune amie parmi ses geôlières, Liliana restait ce qui s'en approchait le plus. Quand il lui offrit la fleur rituelle, elle écarquilla les yeux, curieuse de savoir comment il se l'était procurée. Elle rit de bon cœur lorsqu'il lui raconta son histoire fausse de jeu du chat et de la souris avec les gardes. Arborant à la boutonnière chaque rose qu'il lui offrait, elle s'en débarrassait uniquement quand elle était fanée ou lorsqu'il lui en apportait une fraîche. Un adjectif suffisait à définir leur relation. Naturelle. Quand Liliana le touchait amicalement, ce n'était jamais un problème. Et il se surprit à lui tenir la main ou le bras pendant qu'il lui racontait ses aventures de guide forestier. Ensemble, il leur arrivait souvent de rire comme des gamins en se tenant les côtes. Liliana, lui ayant confié qu'elle avait grandi dans une ferme, en adorant ça, il l'invita plusieurs fois à pique-niquer avec lui dans les collines. En authentique fille des bois, elle se moqua royalement de tacher sa robe sur l'herbe. Mericia et Nietzsche auraient à coup sûr refusé de marcher dans la poussière. Liliana, elle, n'hésitait jamais à s'asseoir sur le sol avec son élève. Son attitude étant dépourvue d'ambiguïté érotique, Richard se sentait à l'aise en sa compagnie. Une femme simple qui semblait apprécier sans arrière-pensée les moments passés avec lui. Et quand il lui avouait, après une séance, n'avoir pas senti l'ombre de son Han, elle n'en faisait pas une maladie, se contentant de dire qu'elle essaierait de faire mieux la prochaine fois. Mis en confiance, Richard se surprit à lui raconter des choses qu'il avait soigneusement dissimulées à ses collègues. Quand il lui avoua bouillir d'impatience d'être débarrassé du Radahan, elle lui posa une main sur le bras, lui fit un clin d'œil et lui assura que ça viendrait bientôt. « Lorsque le temps serait venu, ajouta-t-elle, s'en charger en personne serait un plaisir. » En attendant, il devait garder la foi, car elle comprenait ses sentiments mieux que quiconque. « Et s'il arrivait un jour au bout de sa patience, jura-t-elle, il n'aurait qu'à le dire et elle le libérerait du collier. Mais il valait mieux, si possible, qu'il apprenne à contrôler son Han avant de songer à des mesures aussi radicales. « Beaucoup de futurs sorciers, lui confia-t-elle, tenter d'oublier leurs conditions de prisonniers en culbutant toutes les femmes consentantes qui croisaient leur chemin. Même si elle comprenait qu'un homme eût des besoins, elle espérait, s'il couchait avec une femme, qu'il la choisirait pour ce qu'elle était, pas afin d'oublier le Radahan. Elle lui conseilla aussi d'éviter les prostituées, tristement connues pour refiler des maladies à leurs clients. Richard lui avoua qu'il aimait une femme et refusait de lui être infidèle. Cette déclaration lui valut une grande claque dans le dos, et il vit que la sœur était rudement fière de lui. Il ne lui raconta pas que Callan l'avait rejeté, mais s'en voulut de ne pas en être capable. Un jour, si ce fardeau devenait trop lourd à porter, il pourrait s'en ouvrir à Liliana, et elle comprendrait ses tourments. À cause de leur complicité, il conclut et espéra que Liliana était celle qui lui permettrait de découvrir son Han, si ça devait arriver un jour. Ayant eu seulement un frère, il ignorait ce qu'on éprouvait face à une sœur, au sens familial du terme. Mais ça ne devait pas être très loin de la relation qu'il vivait avec Liliana. Du coup, le nom « sœur Liliana » prenait un autre sens que prévu. Pourtant, il refusait de s'ouvrir totalement à elle. Les sœurs de la lumière, se répétait-il sans cesse, étaient ses geôlières, pas ses amies. Pour l'heure, elle restait donc l'ennemi. Mais quand le moment viendrait, Liliana, il le savait, serait de son côté. Les leçons lui prenaient environ 2 heures par jour. Du temps perdu selon lui, puisqu'il n'était pas plus près de toucher son Han que lors de sa première séance avec Verna. Dès qu'il était seul, le sourcier testait les limites de son autonomie. Quand il atteignait la distance maximale permise par le Radahan, on eût dit qu'il essayait de traverser un mur de pierre revêtu d'une épaisse couche de boue. N'était qu'il pouvait voir au-delà de cet obstacle infranchissable, une privation de liberté d'autant plus frustrante. La barrière se dressait à plusieurs lieues du palais, dans toutes les directions, Mais quand il y fut confronté, son univers lui sembla soudain minuscule. Le jour où il fit pour la première fois cette expérience, fou de rage, il alla dans le bois de Hagen et tua un Muiswiss. Gratch étant sa seule véritable consolation, il passait le plus de nuits possible avec lui. Lutter, manger et dormir avec son compagnon à fourrure le comblait de joie. S'il chassait toujours pour le garn, celui-ci se débrouillait de mieux en mieux seul. Un soulagement pour le sourcier qui n'avait pas le temps de le rejoindre tous les soirs. Même le ventre plein, Gratch était toujours déçu lorsque son humain manquait un rendez-vous. Redoutant que Pacha sache à tout instant où il était grâce au collier, Richard découvrit par hasard un autre pouvoir de la cape magique. Quand il l'apportait, la novice perdait le contact avec son Radahan et se retrouvait dans le brouillard. Étonnée par le phénomène, elle ne s'en inquiéta pas outre mesure, convaincue qu'il s'agissait d'une défaillance de sa part qu'elle corrigerait un jour ou l'autre. Bien entendu, Richard ne la détrompa pas. Mais il comprit que la cape et elle seule expliquaient pourquoi les sœurs et les sorciers ne sentaient pas l'approche d'un Muiswiss. Pour quelle raison dans ce cas l'avait-il capté? Parce qu'il utilisait son Han sans le savoir, comme l'affirmait Verna? Ridicule! Les sorciers et les sœurs y recouraient à volonté et ça ne les avait jamais aidés. Le sourcier adorait les moments où il échappait à la surveillance de Pacha, ce qui lui évitait d'inventer des explications oiseuses. Mais si elle trouvait la solution au problème, nul doute qu'elle détruirait la cape. Histoire de parer à toutes les éventualités, il cacha la deuxième dans un endroit connu de lui seul. Gratch grandissait de jour en jour. Un mois après l'arrivée de son ami au palais, il le dépassait d'une bonne tête. Par bonheur, conscient de sa force, il avait appris à se retenir pendant leurs joutes amicales. Richard s'occupait aussi de l'éducation de Warren. L'homme lui ayant avoué que l'étendue du ciel l'angoissait, il lui fit faire sa première sortie de nuit dans les jardins du palais. L'astuce fonctionnant, le sourcier continua dans cette voie. Confiné dans les catacombes depuis une éternité, Warren s'était habitué à la claustration au point de commencer à s'en fatiguer. Conscient du problème, le sourcier faisait de son mieux pour le résoudre. La taupe, à ses yeux, était un type brillant, aux connaissances quasi encyclopédiques, en un mot, le genre d'homme qu'il appréciait et estimait. Mort d'inquiétude dès qu'il quittait le palais, Warren était rassuré par la présence de Richard, qui se gardait bien de rire de ses angoisses. Au contraire, il évitait de l'emmener trop loin hors du complexe, l'accoutumant peu à peu à l'aventure, comme on réapprend lentement à marcher à un blessé trop longtemps alité. Après plusieurs sorties nocturnes, ils passèrent à une excursion diurne sur les créneaux afin de contempler dans toute leur splendeur l'océan et le ciel. Ne s'éloignant jamais de l'escalier, Warren dut battre en retraite deux ou trois fois. Richard le suivit sans émettre de commentaires et lança la conversation sur d'autres sujets, histoire de ne pas le traumatiser. Plus tard, jamais à court d'idées, il le fit sortir sur les remparts avec un livre à la main, pour que la lecture détourne son attention de la taille décidément impressionnante du ciel. Quand la taupe se sentit mieux en plein jour, Richard l'emmena pour la première fois dans les collines. Assis sur un rocher plat devant un superbe panorama, l'homme annonça qu'il en avait fini avec la peur. Toujours mal à l'aise, il était néanmoins délivré de l'angoisse. Tout sourire, il profita longuement de la vue et rayonna quand Richard se déclara ravi de l'avoir tiré hors de sa taupinière. La taupe avait un besoin urgent d'aventure et la porte du monde lui était désormais ouverte. Warren avançait lentement mais sûrement dans ses recherches. Les quelques références à la vallée des âmes perdues et au Bakaban Mana qu'il avait découvertes ne manquaient pas d'intérêt. Selon ses sources, les sorciers avaient octroyé un certain pouvoir à ce peuple en échange de son territoire, et cette magie lui permettrait de récupérer un jour son pays. De plus, précisaient les textes, lorsque le lien manquant viendrait se joindre au pouvoir investi dans la femme esprit, les tours de la perdition s'écrouleraient. Richard repensa aux propos de Duchayu. Il était le Kaharin, et donc son époux. Un lien comme un autre, il fallait en convenir. Au fil des ans, les Bakabanmana avaient-ils assimilé au mariage, une réalité familière pour eux, une union éminemment plus symbolique? La dame abbesse, dit soudain Warren sans détourner les yeux du paysage, a lu les prophéties et les autres textes qui mentionnent le caillou dans la mare. Richard sursauta. La chanson de Callan, cette horrible comptine au sujet des grinceurs, parlait aussi d'un caillou dans la mare. N'ayant jamais étudié ces prophéties avant d'être chargé d'une mission par le sourcier, Warren n'était pas encore parvenu à en évaluer l'importance.
« Tu connais la deuxième leçon du sorcier ?» lui demanda abruptement Richard.
« La deuxième ? Les sorciers dispensent des leçons ? Quelle est la première ?»«
La nuit où Jedidiah a eu son accident. J'ai prétendu qu'il y avait des cendres sur ton épaule et tu t'es brossé. Tu t'en souviens ?»
Eh bien, c'était une application pratique de la première leçon.
Warren plissa le front de perplexité.
Réfléchis à la question, mon ami, et informe-moi quand tu auras trouvé la réponse. En attendant, il faut que tu accélères le rythme de tes recherches.
Ce sera plus facile désormais. Sœur Becky étant malade tous les matins, elle ne viendra plus regarder sans cesse par-dessus mon épaule.
Sœur Becky, malade?
Comme nombre de femmes enceintes au début.
Beaucoup de sœurs ont des enfants?
Bien sûr. Tu sais que nous n'avons plus le droit d'aller en ville à partir d'un certain stade de notre formation. À ce moment-là, les sœurs se chargent de nos besoins pour que nous puissions étudier en paix.
Et sœur Becky porte ton enfant?
Demanda Richard avec un regard soupçonneux pour la taupe.
Non,
s'écria Warren.
Moi, je me réserve pour la femme que j'aime.
Pacha, je parie.
Warren se contenta de hocher la tête. Richard regarda la ville, puis le palais des prophètes.
« Les besoins incontrôlables des jeunes hommes, tu parles. »
« Warren, tous les enfants des sorciers héritent-ils du don ?»« Oh non ! D'après ce qu'on dit, avant la séparation des mondes, il y a 3000 ans, la transmission était presque automatique. Mais au fil du temps, pour préserver leur pouvoir, les sorciers en place ont éliminé tous les nouveau-nés qui risquaient de devenir des rivaux. Ils ont aussi cessé de dispenser l'enseignement requis. Jadis, les pères se chargeaient de l'éducation de leurs fils. Le don se faisant de plus en plus rare, au point de sauter plusieurs générations, ces connaissances sont devenues une sorte de trésor. Le palais des prophètes fut créé pour se substituer aux sorciers qui refusaient de former les jeunes candidats, histoire de leur donner une chance, si tu préfères. Avec le temps, le don disparut de l'héritage de l'espèce humaine, comme on peut éliminer par croisement telle ou telle variante chez les animaux. Ainsi, les sorciers en place n'eurent plus à affronter d'opposition sérieuse. Aujourd'hui, un garçon qui naît avec le don est l'exception qui confirme la règle. Sur 1000 fils de sorciers, on peut s'estimer heureux d'en trouver un. Nous sommes une race en voie de disparition.
Ces femmes se fichent de nos besoins. Fit Richard en se levant sans quitter des yeux le palais des prophètes. « Elle nous utilise comme étalons. »«
Quoi ?»«
Le palais sert à produire des sorciers, Warren. »«
Dans quel but ?»«
Je l'ignore, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. »«
Bonne idée. J'ai fichtrement besoin d'un peu d'aventure. »«
Sais-tu de quoi tu parles, mon ami ?»«
Bien sûr. Une aventure est une expérience excitante et passionnante. »«
Tu as tout faux, Warren. » Une aventure, c'est crever de trouille sans savoir si tu survivras ou si ceux que tu aimes s'en tireront. Bref, être dans la mouise jusqu'au cou et ignorer comment t'en sortir.
Je n'avais jamais considéré ça sous cet angle.
Eh bien, tu devrais y réfléchir, parce que je vais nous lancer dans une aventure.
Qu'as-tu l'intention de faire?
Moins tu en sauras et moins tu t'inquiéteras. Contente-toi de trouver les informations dont j'ai besoin. Si le voile est déchiré, nous allons tous vivre une aventure sans fin.
À ce propos, fit Warren avec un clin d'œil, j'ai découvert quelque chose de très utile.
Sur la pierre des larmes?
Exactement. Richard, tu ne peux pas l'avoir vue. Elle est prisonnière du voile. On peut même dire qu'elle en fait partie.
Tu es sûr que je n'ai pas pu la voir?
À 100%. La pierre des larmes est l'artefact qui emprisonne celui qui n'a pas de nom dans le royaume des morts. Il peut régner sur les âmes des défunts, mais il n'a aucun accès à notre monde. La pierre des larmes l'empêche de sortir de son sinistre domaine.
Une bonne nouvelle, fit Richard. Tu as travaillé comme un chef, Warren.
Il prit la taupe par la manche et le tira vers lui.
Tu es certain de ce que tu avances?
La pierre des larmes ne peut pas être dans notre monde?
C'est impossible, te dis-je. Pour passer chez nous, la pierre des larmes aurait dû traverser le portail.
Le portail?
Répéta Richard, soudain très mal à l'aise.
Qu'appelles-tu un portail?
Un passage, comme le nom l'indique. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une voie de communication entre le royaume des morts et le monde des vivants. Mais pour l'ouvrir, il faut recourir aux deux variantes de magie, la soustractive et l'additive. Celui qui n'a pas de nom maîtrise uniquement la magie soustractive, donc il est coincé dans le royaume des morts, et ici nous contrôlons seulement la magie additive.
Mais si quelqu'un dans notre monde pratiquait les deux formes de magie, pourrait-il ouvrir le portail?
Sans doute, à condition de savoir où il est. Depuis plus de 3000 ans, il a disparu, personne ne peut le localiser. Du coup, nous sommes en sécurité.
Richard ne partageait pas ce sentiment.
Pas du tout.
Warren, l'autre nom du portail, ne serait-il pas la magie d'Orden?
Ce passage, ce n'est pas les trois boîtes d'Orden?
Où as-tu entendu parler de tout ça?
Demanda Warren, les yeux écarquillés.
Au palais, seule la dame abbesse, deux autres sœurs et moi, sommes autorisés à consulter les livres où le portail est désigné par son ancien nom.
Et qu'arrive-t-il si on ouvre une des boîtes?
C'est impossible!
S'écria Warren.
Pour ça, il faudrait maîtriser les deux sortes de magie.
Qu'arrive-t-il si on réussit, Warren?
Cela ouvre le portail. Le voile est déchiré. Et celui qui n'a pas de nom n'est plus prisonnier.
Dans ce cas, la pierre des larmes passerait-elle dans notre monde?
Warren hocha la tête.
Pour sceller le portail et réparer le voile, suffirait-il de refermer la boîte?
Non. Enfin oui, mais il faut qu'un sorcier la referme. La magie est indispensable pour sceller le portail. Hélas, si un sorcier de notre monde s'en charge, il détruit l'équilibre, puisqu'il contrôle uniquement la magie additive. Du coup, celui qui n'a pas de nom peut s'échapper du royaume des morts. Enfin, pas vraiment. En réalité, c'est plutôt notre monde qui serait aspiré dans le sien.
Comment fermer la boîte sans provoquer la fusion des deux univers?
En procédant comme pour son ouverture, une combinaison de magie additive et soustractive.
Et que devient la pierre des larmes dans tout ça?
Je l'ignore. Il faudra que je me penche sur cette question.
Alors penche-toi vite dessus, mon ami. Nous n'avons pas de temps à perdre.
Richard,
gémit Warren,
tu ne prétends pas savoir où sont les boîtes d'Orden. Ne me dis pas, je t'en prie, que tu les as retrouvées.
Retrouvées? La dernière fois que je l'ai vue, celle du milieu était ouverte et prête à attirer mon salopard de père dans le royaume des morts.
Warren s'évanouit comme une jeune vierge.